2.4. Les associations ouvrières nous demandent un ordre de combat. En présence du fait de la barricade Saint-Antoine, si héroïquement construite par les représentants, si tristement délaissée par la population, les dernières illusions, les miennes, durent se dissiper. Baudin tué, le faubourg froid, cela parlait haut. C'était une démonstration suprême, évidente, absolue, de ce fait auquel je ne pouvais me résigner, l'inertie du peuple. Inertie déplorable, s'il comprenait, trahison de lui-même, s'il ne comprenait pas, neutralité fatale dans tous les cas, calamité dont la responsabilité, répétons-le, revenait non au peuple, mais à ceux qui, en juin 1848, après lui avoir promis l'amnistie, la lui avaient refusée, et qui avaient déconcerté la grande âme du peuple de Paris en lui manquant de parole. Ce que la Constituante avait semé, la législative le récoltait. Nous, innocents de la faute, nous en subissions le contre-coup. L'étincelle que nous avions vue un instant courir dans la foule, Michel de Bourges, du haut du balcon de Bonvalet, moi, au boulevard du Temple, cette étincelle semblait évanouie. Maigne d'abord, puis Brillier, puis Bruckner, plus tard Charamol, Madier de Mongeau, Bastide et Dulac, vinrent nous rendre compte de ce qui s'était passé à la barricade Saint-Antoine, des motifs qui avaient déterminé les représentants présents à ne pas attendre l'heure du rendez-vous fixé, et de la mort de Baudin. Le rapport que je fis moi-même de ce que j'avais vu, et que Cassal et Alexandre Ray complétèrent en y ajoutant des circonstances nouvelles, acheva de fixer la situation. Le comité ne pouvait plus hésiter. Je renonçai moi-même aux espérances que j'avais fondées sur une grande manifestation, sur une puissante réplique au coup d'État, sur une sorte de bataille rangée livrée par les gardiens de la République aux bandits de l'Élysée. Les faubourgs faisaient défaut. Nous avions le levier, le droit, mais la masse à soulever, le peuple, nous ne l'avions pas. Il n'y avait plus rien à espérer, comme ces deux grands orateurs, Michel de Bourges et Jules Favre, avec leur profond sens politique, l'avaient déclaré, dès l'abord, que d'une lutte lente, longue, évitant les engagements décisifs, changeant de quartier, tenant Paris en haleine, faisant dire à chacun « ce n'est pas fini », laissant aux résistances des départements le temps de se produire, mettant les troupes sur les dents, et dans laquelle le peuple parisien, qui ne respire pas longtemps la poudre impunément, finirait peut-être par prendre feu. Barricades faites partout, peu défendues, tout de suite refaites, se dérobant et se multipliant à la fois, telle était la stratégie indiquée par la situation. Le comité l'adopta et envoya de tous côtés des ordres dans ce sens. Nous siégeons en ce moment-là rue Richelieu, numéro 15, chez notre collègue Grévy, qui avait été arrêté la veille au 10e arrondissement et qui était à Mazas. Son frère nous avait offert sa maison pour délibérer. Les représentants, nos émissaires naturels, affluaient autour de nous et se répandaient dans Paris avec nos instructions pour organiser sur tous les points la résistance. Ils en étaient les bras et le comité en était l'âme. Un certain nombre d'anciens constituants, hommes éprouvés, Garnier-Pagès, Marie, Martin de Strasbourg, Senard, ancien président de la Constituante, Bastide, Lessac, Landrin, s'étaient joints depuis la veille aux représentants. On établit donc dans les quartiers où cela fut possible des comités de permanence correspondant avec nous, comité central, et composés ou de représentants ou de citoyens dévoués. Nous choisîmes pour mot d'ordre Baudin. Vers midi, le centre de Paris commença à s'agiter. On vit apparaître notre appel aux armes, placardé d'abord place de la Bourse et rue Montmartre. Les groupes se pressaient pour le lire et luttaient contre les agents de police qui s'efforçaient de déchirer les affiches. D'autres placards lithographiés portaient en regard sur deux colonnes le décret de déchéance rendu à la mairie du 10e arrondissement par la droite et la mise hors la loi votée par la gauche. On distribuait, imprimé sur papier gris avec des têtes de clous l'arrêt de la haute cour de justice déclarant Louis Bonaparte prévenu du crime de haute trahison et signé Ardouin, président, de la Palme, Moreau de la Seine, Cauchy, Bataille, juge. Ce dernier nom était ainsi orthographié par erreur. Il faut lire Pataille. On croyait en ce moment-là, et nous croyons nous-mêmes à cet arrêt, qui n'était point, on l'a vu, l'arrêt véritable. En même temps, dans les quartiers populaires, on affichait au coin de toutes les rues deux proclamations. La première portait « Au peuple, article 3 », note, faute d'impression, il faut lire article 68. À l'occasion de cette affiche, l'auteur de ce livre a reçu la lettre suivante. Elle honore ceux qui l'ont écrite. « Citoyen Victor Hugo, nous savons que vous avez fait un appel aux armes. Nous n'avons pu nous le procurer. Nous y suppléons par ces affiches que nous signons de votre nom. Vous ne nous désavouerez pas. Quand la France est en danger, votre nom appartient à tous. Votre nom est une force publique. Daba, Félix Bonny. » Fin de note. La Constitution est confiée à la garde et au patriotisme des citoyens français. Louis-Napoléon est mis hors la loi. L'état de siège est aboli. Le suffrage universel est rétabli. Vive la République, aux armes. Pour la montagne réunie, le délégué Victor Hugo. La seconde était ainsi conçue. Habitants de Paris, les gardes nationales et le peuple des départements marchent sur Paris pour vous aider à saisir le traître, Louis-Napoléon Bonaparte. Pour les représentants du peuple, Victor Hugo, président, Schœlcher, secrétaire. Cette dernière affiche, imprimée sur des petits carrés de papier, se répandit, dit un historiographe du coup d'État, à des milliers d'exemplaires. De leur côté, les malfaiteurs installés dans les hôtels du gouvernement répliquaient par des menaces. Les larges placards blancs, c'est-à-dire officiels, se multipliaient. On lisait dans l'un « Nous, préfet de police, arrêtons ce qui suit. Article 1er, tout rassemblement est rigoureusement interdit, il sera immédiatement dissipé par la force. Article 2, tout cri séditieux, toute lecture en public, tout affichage d'écrits politiques n'émanant pas d'une autorité régulièrement instituée sont également interdits. Article 3. Les agents de la force publique veilleront à l'exécution du présent arrêté. Fait à la préfecture de police le 3 décembre 1851. Le préfet de police de Maupas. Vu et approuvé le ministre de l'Intérieur de Morny. On lisait dans l'autre. Le ministre de la guerre, vu la loi sur l'état de siège, arrête. Tout individu pris, construisant ou défendant une barricade ou les armes à la main sera fusillé. Le général de division, ministre de la guerre de Saint-Arnaud. Nous reproduisons ces proclamations scrupuleusement et jusqu'à la ponctuation. Les mots « sera fusillé » était en majuscule dans l'affiche signée de Saint-Arnaud. Les boulevards se couvraient d'une foule en fermentation. L'agitation, grandissant dans le centre, gagnait 3 arrondissements, le 6e, le 7e et le 12e. Le quartier des écoles entrait en rumeur. Les étudiants en droit et en médecine acclamaient de flotte sur la place du Panthéon. Madier de Mongeau, ardent, éloquent, parcourait et remuait Belleville. Les troupes, à chaque instant grossies, prenaient position sur tous les points stratégiques de Paris. À 1 heure, un jeune homme nous fut amené par l'avocat des associations ouvrières, l'ancien constituant Leblon, chez lequel le comité avait délibéré le matin même. Nous étions en permanence, Carnot, Jules Favre, Michel de Bourges et moi. Ce jeune homme, qui avait la parole grave et le regard intelligent, se nommait King. Il était envoyé vers nous par le comité des associations ouvrières dont il était délégué. Les associations ouvrières, nous dit-il, se mettaient à la disposition du comité d'insurrection légale nommé par la gauche. elle pouvait jeter dans la lutte 5 ou 6 000 hommes résolus. On ferait de la poudre. Quant aux fusils, on en trouverait. Les associations ouvrières nous demandaient un ordre de combat signé de nous. Jules Favre prit une plume et écrivit « Les représentants sous-signés donnent mandat au citoyen King et à ses amis de défendre avec eux, et les armes à la main, le suffrage universel, la République, les lois. » Il data et nous signâmes tous les 4. « Cela suffit, nous dit le délégué, vous entendrez parler de nous. » 2 heures après, on vint nous annoncer que le combat commençait. On se battait rue Homère. 2-5. Le cadavre de Baudin. Du côté du faubourg Saint-Antoine, nous avions, je l'ai dit, à peu près perdu toute espérance. Mais les hommes du coup d'État n'avaient pas perdu toute inquiétude. Depuis les tentatives et les barricades du matin, une surveillance rigoureuse y avait été organisée. Quiconque abordait le faubourg avait chance d'être examiné, suivi et, au moindre soupçon, arrêté. La surveillance était pourtant parfois en défaut. Vers 2 heures, un homme de petite taille, à l'air sérieux et attentif, traversait le faubourg. Un sergent de ville et un agent en bourgeois lui barrèrent le chemin. « Qui êtes-vous ? Vous le voyez, un passant. Où allez-vous ? Là, tout près, chez Bartholomé, contremaître à la sucrerie. » On le fouille. Lui-même ouvre son portefeuille. Les agents retournent les poches de son gilet et déboutonnent sa chemise sur sa poitrine. Enfin, le sergent de ville dit, en grommelant, « Vous me faisiez pourtant l'effet d'avoir été ici ce matin. Allez-vous-en. » C'était le représentant, Gindrier. S'il ne s'était pas arrêté aux poches du gilet, et s'ils avaient fouillé le paletot, ils y auraient trouvé son écharpe. Gindrier eût été fusillé. Ne point se laisser arrêter, se conserver libre pour la lutte, tel était le mot d'ordre des membres de la gauche. C'est pourquoi nous avions nos écharpes sur nous, mais point visibles. Gindrier n'avait pas mangé de la journée. Il songea à rentrer chez lui et regagna les quartiers neufs du chemin de fer du Havre où il demeurait. Rue de Calais, c'est une rue déserte qui va de la rue Blanche à la rue de Clichy. Un fiacre passait. Gindrier s'entend appeler par son nom. Il se retourne et aperçoit dans le fiacre 2 personnes, parentes de Baudin et un homme qu'il ne connaissait pas. L'une des parentes de Baudin, Madame L., lui dit « Baudin est blessé ». Elle ajouta « On l'a porté à l'hospice Saint-Antoine. Nous allons le chercher. Venez avec nous. » Gindrier monta dans le fiacre. Cependant, l'inconnu était le porte-sonnette du commissaire de police de la rue Sainte-Marguerite-Saint-Antoine. Il avait été chargé par le commissaire d'aller chez Baudin, rue de Clichy, numéro 88, prévenir sa famille. Ne rencontrant que des femmes, il s'était borné à leur dire que le représentant Baudin était blessé. Il s'était offert à les accompagner et se trouvait dans le fiacre. On avait prononcé devant lui le nom de Gindrier. Ce pouvait être une imprudence. On s'en expliqua avec lui. Il déclara qu'il ne trahirait pas le représentant et il fut convenu que devant le commissaire de police, Gindrier serait un parent et s'appellerait Baudin. Les pauvres femmes espéraient. La blessure était grave, peut-être, mais Baudin était jeune et d'une bonne constitution. « On le sauvera, » disait-elle. Gindrier gardait le silence. Chez le commissaire de police, le voile se déchira. « Comment va-t-il ? » demanda Madame L. en entrant. « Mais, » dit le commissaire, « il est mort. »« Comment mort ? » ?»« Oui, tué sur le coup. » Ce fut un moment douloureux. Le désespoir de ces 2 femmes, si brusquement frappées au cœur, éclata en sanglots. « Ah, infâme Bonaparte !» s'écriait Madame L. « Il a tué Baudin. Eh bien, je le tuerai. Je serai la Charlotte Corday de ce marat !» Gindrier réclama le corps de Baudin. Le commissaire de police ne consentit à le rendre à la famille qu'en exigeant la promesse qu'on l'enterrerait sur le champ et sans bruit, et qu'on ne le montrerait pas au peuple. « Vous comprenez, » ajouta-t-il, « que la vue d'un représentant tué et sanglant pourrait soulever Paris. Le coup d'État faisait des cadavres, mais ne voulait pas qu'on s'en servît. » À ces conditions, le commissaire donna à Gindrier 2 hommes et un sauf-conduit pour aller chercher Baudin à l'hospice où il avait été déposé. Cependant, le frère de Baudin, jeune homme de 24 ans, étudiant en médecine, survint. Ce jeune homme a été depuis arrêté et emprisonné. Son crime, c'était son frère. Poursuivons. On se rendit à l'hospice. Sur le vu du sauf-conduit, le directeur introduisit Gindrier et le jeune Baudin dans une salle basse. Il y avait là 3 grabats, couverts de draps blancs, sous lesquels on distinguait la forme immobile de 3 corps humains. Celui des 3 qui occupait le lit du milieu, c'était Baudin. Il avait à sa droite le jeune soldat tué 1 minute avant lui, à côté de Scholcher, et à sa gauche une vieille femme qu'une balle perdue avait atteinte rue de Côte, et que les exécuteurs du coup d'État n'avaient ramassée que plus tard. Dans le premier moment, on ne retrouve pas toutes ces richesses. Les 3 cadavres étaient nus sous leur suaire. On avait seulement laissé à Baudin sa chemise et son gilet de flanelle. On avait trouvé sur lui 7 francs, sa montre et sa chaîne d'or, sa médaille de représentant et un porte-crayon en or dont il s'était servi rue Popincourt, après m'avoir passé l'autre crayon que je conserve. Gindrier et le jeune Baudin s'approchèrent tête nue du grabat qui était au milieu. On souleva le suaire et la face de Baudin mort leur apparut. Il était calme et semblait dormir. Aucun trait du visage n'était contracté. Une nuance livide commençait à marbrer ses joues. On dressa procès-verbal, c'est l'usage. Il ne suffit pas de tuer les gens, il faut encore dresser procès-verbal. Le jeune Baudin dut signer comme quoi, sur la réquisition du commissaire de police, on lui faisait livraison du cadavre de son frère. Pendant ces signatures, Gindrier, dans la cour de l'hospice, s'efforçait, sinon de consoler, du moins de calmer les 2 femmes désespérées. Tout à coup, un homme qui venait d'entrer dans la cour, et qui depuis quelques instants le considérait avec attention, l'aborda brusquement. « Que faites-vous là ?»« Que vous importe ?» dit Gindrier. « Vous venez chercher le corps de Baudin ?»« Oui. » « Cette voiture est à vous ?»« Oui. » »« Montez-y tout de suite et baissez les stores. »« Que voulez-vous dire ?»« Vous êtes le représentant Gindrier, je vous connais. Vous étiez ce matin à la barricade. Si quelque autre que moi vous voit, vous êtes perdu. » Gindrier suivit le conseil et monta dans le fiacre. Tout en montant, il demanda à l'homme « Vous êtes de la police ?» L'homme ne répondit pas. Un moment après, il revint et dit à voix basse près de la portière du fiacre derrière laquelle Gindrier s'était renfermé « Oui, j'en mange le pain, mais je n'en fais pas le métier. » Les 2 hommes de peine, envoyés par le commissaire de police, prirent Baudin sur le lit de bois et l'apportèrent à la voiture. On le mit au fond du fiacre, la face couverte et enveloppé du suaire de la tête aux pieds. Un ouvrier qui était là prêta son manteau qu'on jeta sur le cadavre, afin de ne pas attirer l'attention des passants. Madame L. se plaça à côté du corps, Gindrier en face, le jeune Baudin près de Gindrier. Un fiacre suivait où était l'autre parente de Baudin et un étudiant en médecine nommé Dutèche. On partit. Pendant le trajet, la tête du cadavre, secouée par la voiture, allait et venait d'une épaule à l'autre. Le sang de la blessure recommença à couler et reparaissait en larges plaques rouges à travers le drap blanc. Gindrier, le bras étendu et la main posée sur sa poitrine, l'empêchait de tomber en avant. Madame L. le soutenait de côté. On avait recommandé au cocher d'aller lentement. Le trajet dura plus 1 heure. Quand on arriva au numéro 88 de la rue de Clichy, la descente du corps attira des curieux devant la porte. Les voisins accoururent. Le frère de Baudin, aidé de Gindrier et de Dutèche, monta le cadavre au 4e étage, où Baudin demeurait. C'était une maison neuve. Il n'y habitait que depuis 2 mois. Ils le portèrent dans sa chambre, qui était en ordre, et tel qu'il l'avait quitté le 2 au matin. Le lit, où il n'avait pas couché, la nuit précédente, n'était pas défait. Un livre qu'il lisait était resté sur sa table, ouvert à la page où il s'était interrompu. Ils déroulèrent le suaire, et Gindrier lui coupa avec des ciseaux sa chemise et son gilet de flanelle. Ils lavèrent le corps. La balle était entrée par l'angle de l'arcade de l'œil droit et sortie par le derrière de la tête. La plaie de l'œil n'avait pas saigné. Il s'y était formé une sorte de tumeur. Le sang avait coulé à flots par le trou de l'occiput. On lui mit du linge blanc, on lui fit un lit blanc, et on le coucha, la tête sur son oreiller, la face découverte. Les femmes se lamentaient dans la chambre à côté. Gindrier, déjà, avait rendu le même service à l'ancien constituant James de Montry. En 1850, James de Montry mourut, proscrit, à Cologne. Gindrier partit pour Cologne, alla au cimetière et fit exhumer James de Montry. Il fit extraire le cœur, l'embauma et l'enferma dans un vase d'argent qu'il apporta à Paris. La réunion de la montagne le délégua avec Cholet et Joigneau pour porter ce cœur à Dijon, patrie de Montry, et lui faire des funérailles solennelles. Ces funérailles furent empêchées par ordre de Louis Bonaparte, alors président de la République. L'enterrement des hommes vaillants et fidèles déplaisait à Louis Bonaparte. Leur mort, non. Quand Baudin fut couché sur son lit, les femmes rentrèrent, et toute cette famille, assise autour du cadavre, pleura. Gindrier, que d'autres devoirs réclamaient, redescendit avec Dutèche. Un rassemblement s'était formé devant la porte. Un homme en blouse, le chapeau sur la tête, monté sur une borne, pérorait et glorifiait le coup d'État, le suffrage universel rétabli, la loi du 31 mai abolie, les 25 francs supprimés, Louis Bonaparte a bien fait, etc. Gindrier, debout sur le seuil de la porte, éleva la voix. « Citoyens, là-haut est Baudin, représentant du peuple, tué en défendant le peuple. Baudin, votre représentant à tous, entendez-vous bien? Vous êtes devant sa maison, il est là qui saigne sur son lit, et voilà un homme qui ose ici applaudir son assassin? Citoyens, voulez-vous que je vous dise le nom de cet homme? Il s'appelle la police. Honte et infamie aux traîtres et aux lâches. « Respect au cadavre de celui qui est mort pour vous !» Et, fendant l'attroupement, Gindrier prit au collet l'homme qui venait de parler, et lui jetant son chapeau à terre d'un revers de main, il cria « Chapeau bas !» 2.6. Décret des représentants restés libres. Le texte de l'arrêt que l'on croyait rendu par la Haute Cour de justice nous avait été apporté par l'ancien constituant Martin de Strasbourg, avocat à la Cour de cassation. En même temps, nous apprenions ce qui se passait rue Homère. La bataille s'engageait. Il importait de la soutenir et de l'alimenter. Il importait de placer toujours la résistance légale à côté de la résistance armée. Les membres réunis la veille à la mairie du 10e arrondissement avaient décrété la déchéance de Louis Bonaparte. Mais ce décret rendu par une réunion presque exclusivement composé des membres impopulaires de la majorité, pouvait être sans action sur les masses. Il était nécessaire que la gauche le reprît, le fît sien, lui imprima un accent plus énergique et plus révolutionnaire, et s'empara de l'arrêt de la Haute Cour, que l'on croyait réel, pour prêter main forte à cet arrêt et le rendre exécutoire. Dans notre appel aux armes, nous avions mis Louis Bonaparte hors la loi. Le décret de déchéance, repris et contresigné par nous, s'ajoutait utilement à cette mise hors la loi et complétait l'acte révolutionnaire par l'acte légal. Le comité de résistance convoqua les représentants républicains. L'appartement de M. Grévy, où nous étions, étant trop resserré, nous assignâmes pour lieu de réunion le numéro 10 de la rue des Moulins, quoique averti que la police avait déjà fait une descente dans cette maison. Mais nous n'avions pas le choix. En révolution, la prudence est impossible, et l'on s'aperçoit bien vite qu'elle est inutile. Se confier toujours, telle est la loi des grands actes qui détermine parfois les grands événements. l'improvisation perpétuelle des moyens, des procédés, des expédients, des ressources. Rien pas à pas, tout d'emblée, jamais le terrain sondé, toutes les chances acceptées en bloc, les mauvaises comme les bonnes, tout risqué à la fois de tous les côtés, l'heure, le lieu, l'occasion, les amis, la famille, la liberté, la fortune, la vie, c'est là le combat révolutionnaire. Vers 3 heures, 60 représentants environ étaient réunis rue des Moulins, numéro 10, dans le grand salon, sur lequel s'ouvrait un petit cabinet où siégeait le comité de résistance. C'était une journée de décembre très sombre, et la nuit semblait déjà presque venue. L'éditeur Hetzel, qu'on pourrait appeler aussi le poète Hetzel, est un esprit généreux et un grand courage. Il a, on le sait, montré de rares qualités politiques, comme secrétaire général du ministre des Affaires étrangères sous Bastide. Il vint s'offrir à nous, ainsi qu'avait déjà fait dans la matinée le brave et patriote Ingres. Hetzel savait ce qui nous manquait surtout, c'était une imprimerie. Tant que nous n'avions pas une imprimerie, nous n'avions pas la parole. Et Louis Bonaparte parlait seul. Hetzel avait été trouvé un imprimeur qui lui avait dit « Forcez-moi, mettez-moi le pistolet sous la gorge, j'imprimerai tout ce que vous voudrez. » Il ne s'agissait donc plus que de réunir quelques amis, de s'emparer de cette imprimerie de vive force et de s'y barricader, et d'y soutenir un siège au besoin pendant qu'on imprimerait nos proclamations et nos décrets. Hetzel nous l'offrait. Un détail de son arrivée, au lieu de notre réunion, mérite d'être noté. Comme il approchait de la porte cochère, il vit, dans l'espèce de crépuscule de ce triste jour de décembre, un homme debout et immobile à quelque distance et qui semblait guetter. Il alla à cet homme et reconnut l'ancien commissaire de police de l'Assemblée, M. Yon. « Que faites-vous là ? » dit brusquement Hetzel. « Est-ce que vous êtes là pour nous arrêter ? En ce cas, voici ce que j'ai pour vous. » Et il tira 2 pistolets de ses poches. M. Yon répondit en souriant. « Je veille, en effet, non contre vous, mais pour vous. Je vous garde. » M. Yon, sachant notre réunion chez Landrin et craignant que nous n'y fussions arrêtés, faisait spontanément la police pour nous. Hetzel s'était déjà ouvert de son projet au représentant Labrousse qui devait l'accompagner et lui donner l'appui moral de l'Assemblée dans sa périlleuse expédition. Un premier rendez-vous, convenu entre eux au café Cardinal ayant manqué, Labrousse avait laissé au maître du café pour Hetzel un billet ainsi conçu. Madame Élisabeth attend M. Hetzel, rue des Moulins, numéro 10. C'est sur ce mot qu'Hetzel était venu. Nous acceptâmes les offres d'Hetzel. Il fut entendu qu'à la nuit tombante, le représentant Versigny, qui remplissait les fonctions de secrétaire du comité, lui porterait nos proclamations, nos décrets, les nouvelles qui nous seraient parvenues, et tout ce que nous jugerions à propos de publier. On régla qu'Hetzel attendrait Versigny sur le trottoir du bout de la rue Richelieu qui longe le café Cardinal. Cependant, Jules Favre, Michel de Bourges et moi, nous avions rédigé le décret final qui devait combiner la déchéance votée par la droite avec la mise hors la loi votée par nous. Nous rentrâmes dans le salon pour le lire aux représentants assemblés et le leur faire signer. En ce moment, la porte s'ouvrit et Émile de Girardin se présenta. Depuis la veille, nous ne l'avions pas encore vu. Émile de Girardin, en le dégageant de cette vapeur qui enveloppe tout combattant dans la mêlée des partis, et qui, à distance, change ou obscurcit la figure des hommes, Émile de Girardin est un rare penseur, un écrivain précis, énergique, logique, adroit, robuste, un journaliste dans lequel, comme dans tous les grands journalistes, on sent l'homme d'État. On doit à Émile de Girardin ce progrès mémorable, la presse à bon marché. Émile de Girardin a ce grand don, l'opiniâtreté lucide. Émile de Girardin est un veilleur public. Son journal, c'est son poste. Il attend, il regarde, il épie, il éclaire, il guette, il crie qui vive. À la moindre alerte, il fait feu avec sa plume. Prêt à toutes les formes du combat, sentinelle aujourd'hui, général demain. comme tous les esprits sérieux, il comprend, il voit, il reconnaît, il palpe, pour ainsi dire, l'immense et magnifique identité que couvrent ces trois mots « révolution, progrès, liberté ». Il veut la révolution, mais surtout par le progrès. Il veut le progrès, mais uniquement par la liberté. On peut, et selon nous quelquefois avec raison, différer d'avis avec lui sur la route à prendre, sur l'attitude à tenir et sur la position à conserver. Mais personne ne peut nier son courage qu'il a prouvé sous toutes les formes, ni rejeter son but qui est l'amélioration morale et matérielle du sort de tous. Émile de Girardin est plus démocrate que républicain, plus socialiste que démocrate. Le jour où ces trois idées, démocratie, république, socialisme, c'est-à-dire le principe, la forme et l'application, se feront équilibre dans son esprit, les oscillations qu'il a encore cesseront. Il a déjà la puissance, il aura la fixité. Dans le cours de cette séance, on va le voir, je ne fus pas toujours d'accord avec Émile de Girardin. Raison de plus pour que je constate ici combien j'apprécie cet esprit, fait de lumière et de courage. Émile de Girardin, quelques réserves que chacun puisse ou veuille faire, est un des hommes qui honorent la presse contemporaine. Il unit, au plus haut degré, la dextérité du combattant à la sérénité du penseur. J'allais à lui et je lui demandais « Vous reste-t-il quelques ouvriers à la presse ?» Il me répondit « Nos presses sont sous le scellé et gardées par la gendarmerie mobile, mais j'ai 5 ou 6 ouvriers de bonne volonté. On peut tirer quelques placards à la brosse. » « Eh bien, repris-je, imprimez nos décrets et nos proclamations. J'imprimerai, répondit-il, tout ce qui ne sera pas un appel aux armes. » Il ajouta, en s'adressant à moi, « Je connais votre proclamation. C'est un cri de guerre. Je ne puis imprimer cela. » On se récria. Il nous déclara alors qu'il faisait de son côté des proclamations, mais dans un sens différent du nôtre. Que selon lui, ce n'était pas par les armes qu'il fallait combattre Louis Bonaparte, mais par le vide. Par les armes, il sera vainqueur. Par le vide, il sera vaincu. Il nous conjura de l'aider à isoler le déchu du 2 décembre. « Faisons le vide autour de lui !» s'écriait Émile de Girardin. « Proclamons la grève universelle. Que le marchand cesse de vendre, que le consommateur cesse d'acheter, que l'ouvrier cesse de travailler, que le boucher cesse de tuer, que le boulanger cesse de cuire, que tout chôme jusqu'à l'imprimerie nationale, que Louis Bonaparte ne trouve pas un compositeur pour composer le moniteur, pas un pressier pour le tirer, pas un colleur pour l'afficher. L'isolement, la solitude, le vide autour de cet homme, que la nation se retire de lui. Tout pouvoir dont la nation se retire tombe comme un arbre dont la racine se séparerait. Louis Bonaparte, abandonné de tous dans son crime, s'évanouira. Rien qu'en croisant les bras autour de lui, on le fera tomber. Au contraire, tirez-lui des coups de fusil, vous le consolidez. L'armée est ivre, le peuple est ahuri et ne se mêle de rien. La bourgeoisie a peur du président, du peuple, de vous, de tous. Pas de victoire possible. Vous allez devant vous en braves gens, vous risquez vos têtes, c'est bien. Vous entraînez avec vous 2 ou 3 000 hommes intrépides dont le sang mêlé au vôtre coule déjà. C'est héroïque, soit. Ce n'est pas politique. Quant à moi, je n'imprimerai pas d'appel aux armes et je me refuse au combat. Organisons la grève universelle. Ce point de vue était hautain et superbe. Mais malheureusement, je le sentais irréalisable. 2 aspects du vrai saisissent Girardin, le côté logique et le côté pratique. Ici, selon moi, le côté pratique faisait défaut. Michel de Bourges lui répondit. Michel de Bourges, avec sa dialectique ferme et sa raison vive, posait le doigt sur ce qui était pour nous la question immédiate, le crime de Louis Bonaparte. La nécessité de se dresser debout devant ce crime. C'était plutôt une conversation qu'une discussion. Mais Michel de Bourges, puis Jules Favre, qui parla ensuite, s'y élevèrent à la plus haute éloquence. Jules Favre, digne de comprendre le puissant esprit de Girardin, eût volontiers adopté cette idée, si elle lui eût semblé praticable, de la grève universelle, du vide autour de l'homme. Il la trouvait grande, mais impossible. Une nation ne s'arrête pas court. Même frappée au cœur, elle va encore. Le mouvement social, qui est la vie animale des sociétés, survit au mouvement politique. Quoi que pût espérer Émile de Girardin, il y aura toujours un boucher qui tuera, un boulanger qui cuira, il faut bien manger. Faire croiser les bras au travail universel, chimère, disait Jules Favre, rêve. Le peuple se bat 3 jours, 4 jours, 8 jours. La société n'attend pas indéfiniment. Quant à la situation, sans doute elle était terrible, sans doute elle était tragique, et le sang coulait. Mais cette situation, qui l'avait faite? Louis Bonaparte. Nous, nous l'acceptions telle qu'elle était, rien de plus. Émile de Girardin, ferme, logique, absolu dans son idée, persista. Quelques-uns pouvaient être ébranlés. Les arguments, si abondants dans ce vigoureux et inépuisable esprit, lui arrivaient en foule. Quant à moi, je voyais devant moi le devoir comme un flambeau. Je l'interrompis, je m'écriai : il est trop tard pour délibérer sur ce qu'on fera. Ce n'est pas à faire, c'est fait. Le gant du coup d'État est jeté, la gauche le ramasse. C'est aussi simple que cela. L'acte du 2 décembre est un défi infâme, insolent, inouï à la démocratie, à la civilisation, à la liberté, au peuple, à la France. Je répète que nous avons ramassé ce gant. Nous sommes la loi, mais la loi vivante qui peut s'armer aux besoins et combattre. Un fusil dans nos mains, c'est une protestation. Je ne sais pas si nous vaincrons, mais nous devons protester. Protester dans le Parlement d'abord. Le Parlement fermé, protester dans la rue. La rue fermée, protester dans l'exil. L'exil accompli, protester dans la tombe. Voilà notre rôle à nous, notre fonction, notre mission. Le mandat des représentants est élastique. Le peuple le donne, les événements l'élargissent. Pendant que nous délibérions, notre collègue Napoléon Bonaparte, fils de l'ancien roi de Westphalie, était survenu. Il écoutait, il prit la parole. Il flétrit énergiquement et avec l'accent d'une indignation sincère et généreuse le crime de son cousin. Mais il déclara que dans sa pensée, une protestation écrite suffisait. Protestation des représentants, protestation du Conseil d'État, protestation des magistrats, protestation de la presse. Que cette protestation serait unanime et éclairerait la France. Que pour toute autre forme de résistance, on n'aurait pas l'unanimité. Que, quant à lui, ayant toujours trouvé la Constitution mauvaise, l'ayant dans la Constituante combattue dès le premier instant, il ne la défendrait pas le dernier jour, qu'il donnerait certes pas une goutte de sang pour elle. Que la Constitution était morte, mais que la République était vivante, et qu'il fallait sauver non la Constitution, cadavre, mais la République, principe. Les réclamations éclatèrent. Bancel, jeune, ardent, éloquent, impétueux, tout débordant de conviction, s'écria que ce qu'il fallait voir, ce n'étaient pas les défauts de la Constitution, mais l'horreur du crime commis, la trahison flagrante, le serment violé. Il déclara qu'on pouvait avoir voté contre la Constitution dans l'Assemblée constituante et la défendre aujourd'hui en présence d'un usurpateur, et que c'était logique, et que plusieurs d'entre nous étaient dans ce cas. Il me cita comme exemple, preuve, dit-il, Victor Hugo. Il termina ainsi. Vous avez assisté à la construction d'un navire. Vous l'avez trouvé mal bâti. Vous avez donné des conseils qui n'ont pas été écoutés. Cependant, vous avez dû monter à bord de ce vaisseau. Vos enfants et vos frères y sont avec vous. Votre mère y est embarquée. Un pirate arrive, la hache dans une main pour saborder le navire, la torche dans l'autre pour l'incendier. L'équipage veut se défendre, court aux armes. Direz-vous à l'équipage, « Moi, je trouve ce navire mal construit et je veux le laisser détruire ?» En pareil cas, ajouta Edgar Quinet, qui n'est pas du parti du navire et du parti du pirate. On nous cria de toutes parts, « Le décret, lisez le décret !» J'étais debout, adossé à la cheminée, Napoléon Bonaparte vint à moi et s'approchant de mon oreille, « Vous livrez, me dit-il tout bas, une bataille perdue d'avance. » Je lui répondis, « Je ne regarde pas le succès, je regarde le devoir. » Il répliqua, « Vous êtes un homme politique et par conséquent vous devez vous préoccuper du succès. Je vous répète avant que vous alliez plus loin, c'est une bataille d'avance perdue. » Je repris, « Si nous engageons la lutte, la bataille est perdue, vous le dites, je le crois. Mais si nous ne l'engageons pas, c'est l'honneur qui est perdu. J'aime mieux perdre la bataille que l'honneur. » Il resta un moment silencieux, puis il me prit la main. « Soit, reprit-il, mais écoutez, vous courez, vous personnellement, de grands dangers. De tous les hommes de l'Assemblée, vous êtes celui que le président hait le plus. Vous l'avez du haut de la tribune surnommé Napoléon le Petit. Vous comprenez, c'est inoubliable cela. En outre, c'est vous qui avez dicté l'appel aux armes, et on le sait. Si vous êtes pris, vous êtes perdu, vous serez fusillé sur place, ou tout au moins déporté. Avez-vous un lieu sûr où coucher cette nuit ? » Je n'y avais pas encore songé. « Ma foi non, lui dis-je. » Il reprit. « Eh bien, venez chez moi. Il n'y a peut-être qu'une maison dans Paris où vous soyez en sûreté, c'est la mienne. On ne viendra pas vous chercher là. Venez-y le jour, la nuit, à quelque heure qu'il vous plaira. Je vous attendrai. Et c'est moi qui vous ouvrirai. Je demeure rue d'Alger, numéro 5. » Je le remerciai. L'offre était noble et cordiale. J'en fus touché. Je n'en ai point usé, mais je ne l'ai pas oublié. On cria de nouveau, « Lisons le décret. Assis, assis !» Il y avait devant la cheminée une table ronde. On y apporta une lampe, des plumes, des écritoires et du papier. Les membres du comité s'assirent à cette table. Les représentants prirent place autour d'eux sur les canapés et les fauteuils et sur toutes les chaises qu'on put trouver dans les chambres voisines. Quelques-uns cherchèrent des yeux Napoléon Bonaparte. Ils s'étaient retirés. Un membre demanda qu'avant toute chose, la réunion se déclara Assemblée nationale et se constitua en nommant immédiatement un président et un bureau. Je fis remarquer que nous n'avions pas à nous déclarer assemblée, que nous étions l'assemblée, de droit comme de fait, et toute l'assemblée, nos collègues absents étant empêchés par la force, que l'Assemblée nationale, même mutilée par le coup d'État, devait conserver son entité et rester constituée après comme avant, que nommer un autre président et un autre bureau, ce serait donner prise à Louis Bonaparte, et accepter en quelque sorte la dissolution, que nous ne devions faire rien de pareil, que nos décrets devaient être publiés, non avec la signature d'un président quel qu'il fût, mais avec la signature de tous les membres de la gauche non arrêtés, qu'ils auraient ainsi pleine autorité sur le peuple et pleine action. On renonça à nommer un président. Noël Parfait proposa que nos décrets et nos actes fussent rendus non avec la formule « l'Assemblée nationale décrète, etc. », mais avec la formule « les représentants du peuple restés libres, décrètent, etc. » De cette façon, nous conservions toute l'autorité attachée à la qualité de représentants du peuple, sans associer à la solidarité de nos actes les représentants arrêtés. Cette formule avait en outre l'avantage de nous séparer de la droite. Le peuple savait que les seuls représentants restés libres étaient les membres de la gauche. On adopta l'avis de Noël Parfait. Je donnai lecture du décret de déchéance. Il était conçu en ces termes. Déclaration. Les représentants du peuple restés libres, vu l'article 68 de la Constitution ainsi conçu, Article 68. Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions. Les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance. Le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la Haute Cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture. Ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent pour procéder au jugement du président et de ses complices. Décrète. Article 1er. Louis Bonaparte est déchu de ses fonctions de président de la République. Article 2. Tout citoyen et fonctionnaire public sont tenus de lui refuser obéissance sous peine de complicité. Article 3. L'arrêt rendu le 2 décembre par la Haute Cour de justice et qui déclare Louis Bonaparte prévenu du crime de haute trahison sera publié et exécuté. En conséquence, les autorités civiles et militaires sont requises, sous peine de forfaiture, de prêter main-forte à l'exécution du dit arrêt. Fait à Paris en séance de permanence, le 3 décembre 1851. Le décret lu et voté par acclamation, nous le signâmes, et les représentants se pressèrent en foule autour de la table pour joindre leur signature aux nôtres. Saint fit remarquer que cette signature prenait du temps, qu'en outre, nous n'étions guère plus de 60, un grand nombre des membres de la gauche étant en mission dans les rues insurgées. Il demanda si le comité, qui avait plein pouvoir de toute la gauche, voyez quelque objection à faire suivre le décret du nom de tous les représentants républicains restés libres, sans exception, absents comme présents. Nous répondîmes qu'en effet, le décret signé de tous remplissait mieux le but. C'était d'ailleurs l'avis que j'avais ouvert. Bancel avait précisément dans sa poche un vieux numéro du Moniteur contenant un scrutin de division. On y coupa la liste des membres de la gauche, on y effaça les noms de ceux qui étaient arrêtés, et on joignit cette liste au décret. Note. Cette liste, qui appartient à l'histoire, ayant servi de base à la liste de proscription, on la retrouvera tout entière dans les notes de ce livre. Fin de note. Le nom d'Émile de Girardin sur cette liste frappa mes yeux. Il était toujours présent. Signez-vous le décret ? Lui demandai-je. Sans hésiter. En ce cas, vous consentez à l'imprimer ? Tout de suite. Il reprit. N'ayant plus de presse, comme je vous l'ai dit, je ne puis faire tirer qu'en placard et à la brosse. C'est long, mais ce soir, à 8 heures, vous aurez 500 exemplaires. Et, poursuivis-je, vous persistez à refuser d'imprimer l'appel aux armes ? Je persiste. On fit une double copie du décret qu'Émile de Girardin emporta. La délibération recommença. À chaque instant, des représentants survenaient et apportaient des nouvelles. Amiens en insurrection, Reims et Rouen en mouvement et en marche sur Paris. Le général Canrobert résistant au coup d'État. Le général Castellane hésitant. Le ministre des États-Unis demandant ses passeports. Nous ajoutions peu de foi à ces bruits, et les faits ont prouvé que nous avions raison. Cependant, Jules Favre avait rédigé le décret suivant, qu'il proposa et qui fut immédiatement adopté. Décret, République française, liberté, égalité, fraternité. Les représentants sous-signés demeurés libres, réunis en assemblée de permanence, vu l'arrestation de la plupart de leurs collègues, vu l'urgence. Considérant que pour l'accomplissement de son crime, Louis Bonaparte ne s'est pas contenté de multiplier les moyens de destruction les plus formidables contre la vie et les propriétés des citoyens de Paris, qu'il a foulé aux pieds toutes les lois, anéanti toutes les garanties des nations civilisées, considérant que ces criminelles folies ne font qu'augmenter la violente réprobation de toutes les consciences et hâter l'heure de la vengeance nationale, mais qu'il importe de proclamer le droit, décrète. Article 1er. L'état de siège est levé dans tous les départements où il a été établi. Les lois ordinaires reprennent leur empire. Article 2. Il est enjoint à tous les chefs militaires, sous peine de forfaiture, de se démettre immédiatement des pouvoirs extraordinaires qui leur ont été conférés. Article 3. Les fonctionnaires et agents de la force publique sont chargés, sous peine de forfaiture, de mettre à exécution le présent décret. Fait en séance de permanence le 3 décembre 1851. Madier de Mongeau et de Flotte entrèrent. Ils arrivaient du dehors, ils avaient été partout où la lutte était engagée. Ils avaient vu de leurs yeux l'hésitation d'une partie de la population devant ces mots. La loi du 31 mai est abolie, le suffrage universel est rétabli. Les affiches de Louis Bonaparte faisaient évidemment des ravages. Il fallait opposer effort à effort, et ne rien négliger de ce qui pouvait ouvrir les yeux au peuple. Je dictai la proclamation suivante. Proclamation. Peuple, on te trompe. Louis Bonaparte dit qu'il te rétablit dans tes droits et qu'il te rend le suffrage universel. Louis Bonaparte en a menti. Lis ces affiches. Il t'accorde, quelle dérision infâme, le droit de lui conférer à lui seul, majuscule, le pouvoir constituant, c'est-à-dire la suprême puissance qui t'appartient. Il t'accorde le droit de le nommer dictateur pour 10 ans, majuscule. En d'autres termes, il t'accorde le droit d'abdiquer et de le couronner, droit que tu n'as même pas, ô peuple, car une génération ne peut disposer de la souveraineté de la génération qui la suivra. Oui, il t'accorde à toi, souverain, le droit de te donner un maître, et ce maître, c'est lui. Hypocrisie et trahison. Peuple, nous démasquons l'hypocrite. C'est à toi de punir le traître. Le comité de résistance. Jules Favre, De Flotte, Carnot, Madier de Mongeau, Mathieu de la Drôme, Michel de Bourges, Victor Hugo. Baudin était tombé héroïquement. Il fallait faire connaître au peuple sa mort et honorer sa mémoire. Le décret qu'on va lire fut voté sur la proposition de Michel de Bourges. Décret. Les représentants du peuple restés libres, considérant que le représentant Baudin est mort sur la barricade du faubourg Saint-Antoine pour la République et pour les lois, et qu'il a bien mérité de la patrie, décrète. Les honneurs du Panthéon sont décernés au représentant Baudin. Fait en séance de permanence le 3 décembre 1851. Après les honneurs aux morts et les nécessités du combat, il importait, selon moi, de réaliser immédiatement et dictatorialement quelques grandes améliorations populaires. Je proposais l'abolition des octrois et de l'impôt des boissons. On fit cette objection. Pas de caresse au peuple. Après la victoire, nous verrons. En attendant qu'il combatte. S'il ne combat pas, s'il ne se lève pas, s'il ne comprend pas que c'est pour lui, que c'est pour son droit que nous, les représentants, nous risquons nos têtes à cette heure. S'il nous laisse seuls sur la brèche, en présence du coup d'État, c'est qu'il n'est pas digne de la liberté. Bancel fit remarquer que l'abolition des octrois et de l'impôt des boissons n'était pas une caresse au peuple, mais un secours aux misères, une grande mesure économique réparatrice, une satisfaction au cri public, satisfaction que la droite avait toujours obstinément refusée, et que la gauche, maîtresse du terrain, devait se hâter d'accorder. On vota, avec la réserve de ne les publier qu'après la victoire, les 2 décrets en un seul sous cette forme. Décret. Les représentants restés libres décrètent. Les octrois sont abolis dans toute l'étendue du territoire de la République. Fait en séance de permanence le 3 décembre 1851. Versigny, avec une copie des proclamations et du décret, partit à la recherche d'Hetzel. La Brousse y alla de son côté. On se donna rendez-vous pour 8 heures du soir chez l'ancien membre du gouvernement provisoire, Marie, rue Neuve des Petits Champs. Comme les membres du comité et les représentants se retiraient, on vint me dire que quelqu'un demandait à me parler. J'entrai dans une espèce de petite chambre attenante au salon, et j'y trouvai un homme en blouse à l'air sympathique et intelligent. Cet homme avait à la main un rouleau de papier. « Citoyen Victor Hugo, me dit-il, vous n'avez pas d'imprimerie ? Voici un moyen de vous en passer. » Il déploya à plat sur la cheminée le rouleau qu'il tenait à la main. C'était un cahier d'une espèce de papier bleu très mince et qui me parut légèrement huilé. Entre chaque feuille de papier bleu, il y avait une feuille de papier blanc. Il tira de sa poche une sorte de poinçon émoussé en disant « La première chose venue peut servir, un clou, une allumette. » Il traça avec le poinçon sur la première feuille du cahier le mot « République ». Puis, tournant les feuillets, « Voyez, me dit-il. » Le mot « République » était reproduit sur les 15 ou 20 feuilles blanches que contenait le cahier. Il ajouta « On se sert habituellement de ce papier pour décalquer les dessins de fabrique. J'ai pensé qu'il pourrait être utile dans un moment comme celui-ci. J'en ai chez moi une 100aine de feuilles avec lesquelles je puis faire 100 copies de ce que vous voudrez, d'une proclamation par exemple, dans le même temps qu'on met pour en faire 4 ou 5. Écrivez-moi quelque chose, ce que vous croirez utile dans l'instant où nous sommes, et demain matin ce sera affiché dans Paris à 500 exemplaires. Je n'avais sur moi aucun des actes que nous venions de rédiger. Versigny était parti avec les copies. Je pris une feuille de papier et j'écrivis sur le coin de la cheminée la proclamation suivante. À l'armée. Soldat, un homme vient de briser la Constitution. Il déchire le serment qu'il avait prêté au peuple, supprime la loi, étouffe le droit, ensanglante Paris, garrotte la France, trahit la République. Soldat, cet homme vous engage dans son crime. Il y a 2 choses saintes, le drapeau qui représente l'honneur militaire et la loi qui représente le droit national. Soldat, le plus grand des attentats, c'est le drapeau levé contre la loi. Ne suivez pas plus longtemps le malheureux qui vous égare. Pour un tel crime, les soldats français doivent être des vengeurs, non des complices. Cet homme dit qu'il s'appelle Bonaparte. Il ment. Car Bonaparte est un mot qui veut dire gloire. Cet homme dit qu'il s'appelle Napoléon. Il ment, car Napoléon est un mot qui veut dire génie. Lui, il est obscur et petit. Livrez à la loi ce misérable. Soldat, c'est un faux Napoléon. Un vrai Napoléon vous ferait recommencer, Maringo. Lui, il vous fait recommencer, Transnonain. Tournez les yeux vers la vraie fonction de l'armée française. Protéger la patrie, propager la révolution, délivrer les peuples, soutenir les nationalités, affranchir le continent, briser les chaînes partout, défendre partout le droit. Voilà votre rôle parmi les armées d'Europe. Vous êtes digne des grands champs de bataille. Soldats, l'armée française est l'avant-garde de l'humanité. Rentrez en vous-même, réfléchissez, reconnaissez-vous, relevez-vous, songez à vos généraux arrêtés, pris au collet par des argousins et jetés, menottes aux mains, dans la cellule des voleurs. Le scélérat qui est à l'Élysée croit que l'armée de la France est une bande du bas empire, qu'on la paie et qu'on l'enivre et qu'elle obéit. Il vous fait faire une besogne infâme, il vous fait égorger en plein 19e siècle et dans Paris même, la liberté, le progrès, la civilisation. Il vous fait détruire, à vous, enfants de la France, tout ce que la France a si glorieusement et si péniblement construit en 3 siècles de lumière et en 60 ans de révolution. Soldats, si vous êtes la grande armée, respectez la grande nation. Nous, citoyens, nous, représentants du peuple, et vos représentants, nous, vos amis, vos frères, nous qui sommes la loi et le droit, nous qui nous dressons devant vous en vous tendant les bras et que vous frappez aveuglément de vos épées. Savez-vous ce qui nous désespère? Ce n'est pas de voir notre sang qui coule, c'est de voir votre honneur qui s'en va. Soldats, un pas de plus dans l'attentat, un jour de plus avec Louis Bonaparte. Et vous êtes perdu devant la conscience universelle. Les hommes qui vous commandent sont hors la loi. Ce ne sont pas des généraux, ce sont des malfaiteurs. La casaque des bagnes les attend. Voyez-la, dès à présent, sur leurs épaules. Soldats, il est temps encore. Arrêtez. Revenez à la patrie. Revenez à la République. Si vous persistiez, savez-vous ce que l'histoire dirait de vous? Elle dirait. Ils ont foulé aux pieds de leurs chevaux et écrasé sous la roue de leurs canons toutes les lois de leur pays. Eux, des soldats français, ils ont déshonoré l'anniversaire d'Austerlitz. Et par leur faute, par leur crime, ils dégoûtent aujourd'hui du nom de Napoléon sur la France autant de honte qu'il en a autrefois découlé de gloire. Soldats français, cessez de prêter main forte au crime. » Mes collègues du comité étant partis, je ne pouvais les consulter. Le temps pressait, je signais. Pour les représentants du peuple restés libres, le représentant membre du comité de résistance, Victor Hugo. L'homme en blouse emporta la proclamation et me dit « Vous la reverrez demain matin. » Il tint parole. Je la trouvai le lendemain affichée rue Rambuteau, au coin de la rue de l'Homme armé et à la chapelle Saint-Denis. Pour les personnes qui n'étaient pas dans le secret du procédé, elle semblait écrite à la main avec de l'encre bleue. Je songeais à rentrer chez moi. Quand j'arrivais rue de la Tour d'Auvergne, devant ma porte, elle se trouvait précisément et par je ne sais quel hasard entr'ouverte. Je la poussai et j'entrai. Je traversai la cour et je montai l'escalier sans rencontrer personne. Ma femme et ma fille étaient dans le salon au coin du feu avec Madame Paul Meurice. J'entrai sans bruit. Elle causait à voix basse. Elle parlait de Pierre Dupont, le chansonnier populaire qui était venu chez moi demander des armes. Isidore, qui avait été soldat, avait des pistolets et les avait prêtés à Pierre Dupont pour le combat. Tout à coup, ces dames tournèrent la tête et me virent près d'elles. Ma fille jeta un cri. « Oh, va-t'en !» me dit ma femme en me sautant au cou. « Tu es perdue si tu restes une minute. Tu vas être pris ici. » Madame Paul Meurice ajouta « On vous cherche. La police était ici il y a un quart d'heure. » Je ne pus réussir à les rassurer. On me remit un paquet de lettres m'offrant des asiles pour la nuit, quelques-unes signées de noms inconnus. Après quelques minutes, les voyant de plus en plus effrayés, je m'en allai. Ma femme me dit « Ce que tu le fais pour la justice. Va, continue !» J'embrassai ma femme et ma fille. Il y a 5 mois de cela, au moment où j'écris ces lignes. Pendant que je m'en allais en exil, elles sont restées près de mon fils Victor en prison. Je ne les ai pas revues depuis ce jour-là. Je sortis comme j'étais entré. Il n'y avait dans la loge du portier que 2 ou 3 petits-enfants, assis autour d'une lampe, qui riaient et regardaient des estampes dans un livre.